Non, en réalité, si vous voulez, tout a commencé lorsque je passais un temps avec Dieu. Et j'ai, je sais pas, en esprit, en discutant avec Dieu, j'ai vraiment reçu une, je sais pas, un moment très fort, une onction très forte pour encourage tes frères, en fait. Encourage les hommes pour les honorer, car beaucoup n'ont très peu d'encouragement, en fait. Et fortifie-les en mon nom. Et donc j'ai commencé à écrire ce message dans le but d'encourager les hommes de l'église. Mais en écrivant, je me suis rendu compte que ça ne concernait pas que les hommes. Et en fait, mon véritable cœur, ici, c'est surtout en fait l'unité dans l'église, en fait. L'unité dans les relations de l'église. Et vous verrez finalement que la plus grande partie de mon message s'adresse à tout le monde et pas juste aux hommes en soi. Mais je pense quand même qu'il y a au moins certains points qui sont vraiment là pour encourager les hommes de l'église, soit pour les exhorter par rapport à des points améliorés, soit alors vraiment pour, mais vraiment juste les remercier de tout ce qu'ils ont tenu jusque-là, en fait. Et ouais, voilà, c'est un peu l'idée générale. Alors, avec un titre pareil, j'évoque un petit peu la notion d'identité masculine, mais ce n'est pas le sujet principal du message, donc je l'évoquerai assez rapidement, mais pas en détail. Le but, vraiment, ici, c'est plutôt un encouragement d'église, et pas de faire une étude exhaustive de qu'est-ce que l'identité masculine, etc. Car il y a d'autres formations qui font cela. Je pense notamment au Duby du Gospel Center, avec qui on est en relation, j'en reparlerai un petit peu après. Mais voilà, il y a plusieurs choses à dire là-dessus, en fait. Bien. Et je vais commencer avec un état des lieux. Vous le savez, je suis enseignant en SVT. Et en SVT, notamment via le programme EVARS, on est appelé à parler de tout ce qui est de la sexualité. Et quand on parle de sexualité, c'est vraiment pas juste les bases biologiques, mais on est amené très régulièrement à parler de tout l'aspect social de la sexualité. Et quand je dis social, on parle vraiment de tout. Franchement, vous n'imaginez pas ce qui est obligatoire aujourd'hui à l'école. On doit parler de la place de la femme au travail. Je crois que c'est en 6e dans le programme officiel EVARS, ou en 5e, quelque chose comme ça. On doit parler de la contraception, on doit parler aussi de la notion de transsexualité, de comment respecter l'autre dans les relations. C'est fou comment c'est présent aujourd'hui en France dans l'éducation. Au niveau du secondaire, dès la maternelle, il y a déjà le programme EVARS, mais c'est très, très général. C'est plutôt EVAR, pardon. Je sais pas pourquoi je dis S, c'est moi qui ai rajouté quelque chose. Mais bien vu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça, EVARS, c'est pour avant le secondaire, et après c'est EVARS, sûrement, en fait, au secondaire. Bon, c'est ça, voilà, c'est la nuance. Bref, tout ça pour vous dire que je baigne là-dedans, et je peux vous dire que baigner là-dedans, c'est comme baigner dans une flaque d'acide, c'est pas agréable. Pourquoi ce n'est pas agréable? Parce que même si la thématique est extrêmement intéressante, il y a quand même pas mal de tensions, on va dire ça très gentiment. Il y a plusieurs tensions qui existent, et notamment entre hommes et femmes. Moi, je compare par rapport à l'éducation que moi j'ai reçue quand j'étais au primaire ou au collège, et je me rappelle qu'il y avait du féminisme qui existait, etc. Mais il n'y avait pas autant de haine entre hommes et femmes que ce qu'on retrouve aujourd'hui. Ou alors, j'étais clairement pas conscient de ça, parce que aujourd'hui, on observe évidemment on observe la montée de mouvements féministes et de mouvements masculinistes qui sont pas seulement là pour dire « respectez-nous », mais qui sont aussi là pour dire « on n'a pas besoin de vous, en fait ». Autrement dit, on vous respecte pas. Et ouais, tout ça, c'est... Bon, je vous laisse imaginer les phrases assez lourdes qu'on peut avoir. Par exemple, en haut à gauche, j'ai volontairement inversé l'image parce que ce n'est pas forcément extrêmement poli. Donc, mais voilà, qui explique comme quoi tous les mecs sont... pas géniaux, encore une fois, je ne vais pas dire de vulgarité au micro. En dessous, voilà, vous voyez toutes les pancartes des mouvements féministes qu'on retrouve à Paris ou dans des grandes villes, patriarcat, crâne, etc. Et après, du côté masculin, et ça c'est peut-être plus récent que le féminisme qu'on connaît aujourd'hui en France, on a aussi ce qu'on appelle les mouvements masculinistes qui montent de plus en plus, et souvent qui sont réactionnaires par rapport aux mouvements féministes. Pour faire simple, en gros, des hommes qui se sentent pas respectés et qui, du coup, vont partir dans l'autre extrême, qui vont vraiment rentrer dans cette image d'hommes forts. Vous savez, vraiment, des bœufs, en fait. Non, mais j'exagère pas. Hein. Vraiment, combien de jeunes prennent des stéroïdes très, très tôt, en fait, pour être à 18 ans avec une carrure, mais gigantesque. Vraiment, quand je dis que c'est des bœufs, ils sont... c'est impressionnant. Et tout ça pour justement être fort, pour finalement voir les femmes plutôt soit comme des objets à conquérir, soit au contraire comme des ennemis, Et ça, je dirais que c'est un peu plus nouveau de vraiment voir la femme comme un ennemi. Et justement, je vous ai montré quelques... Enfin, en bas à gauche, vous voyez en fait quelques images de vidéos TikTok, YouTube et j'en passe. Et particulièrement pour les jeunes, en fait, en fonction de ce qu'ils choisissent de regarder, parce qu'en réalité, comme dit, les algorithmes s'adaptent, mais si des jeunes tombent là-dedans, ils vont très facilement tomber avec des coachs qui sont là à dire « Moi, je t'explique la vie, 5 étapes pour réussir ta vie, devenir un vrai homme. » Et en général, il y a des... Comment dire ? On ne va pas juste parler de machisme, hein, ça peut être vraiment une haine dirigée contre le féminisme. Donc ça peut aller très très loin. Tout ça pour vous placer un peu le contexte, je vous laisse imaginer pourquoi ce n'est pas toujours agréable quand on doit faire des recherches dans cette thématique. Donc, et pourtant, en fait, quand on y réfléchit, mais pourquoi on en est arrivé là ? En fait, ça partait de bonnes intentions, quelque part de, comment dire, vouloir entre guillemets de la justice. Quand je prends les mouvements féministes qui parlent de choses réelles, il y a réellement des hommes qui ont abusé de femmes, et en fait inversement aussi, même si c'est moins courant. Mais en fait, tout ça finalement est énormément alimenté par de la haine. Et c'est un peu là-dessus que je... Enfin, c'est vraiment ça que je voulais prendre comme point de départ. Aujourd'hui, on vit dans un climat où quand on parle, je sais pas, par exemple, je parle d'encourager des hommes, et ben ça pourrait être très mal perçu. Alors, je sais pas pour vous personnellement, mais ça pourrait être très mal perçu dans le sens, hein, quoi, tu penses qu'aux hommes, et les femmes, tu veux pas les valoriser, t'es machiste. Je fais un petit cliché, c'est vrai, mais disons, il y a tellement de haine qui baigne, tellement de blessures qui remontent, que très facilement, on n'est plus du tout dans une optique qui correspond à celle de Dieu. Pourtant, ça paraît juste, hein, de dire, je réclame mes droits, ça paraît juste au premier abord, mais souvent, ce qu'il y a dans le cœur, ben, n'est pas ce que Dieu demande, en fait. Donc, je vais commencer une première partie, simplement Dieu et les relations. Alors, homme-femme, mais même relations en général dans l'Église. Et Éphésiens 5, versets 21 à 33, et quand il y a par rapport aux relations homme-femme, est un bon point de départ. Alors, rien que direct, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Soumettez-vous, rien que ce mot, là, les poils se hérissent déjà. Et même avec le verset qui n'est peut-être pas le verset favori de la gente féminine. Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, etc. Rien que ça, se soumettre, c'est connoté extrêmement négativement, particulièrement dans la langue française. Et là, je vous laisse imaginer que quelqu'un qui est très engagé dans un combat féministe ou masculiniste, il a déjà les poils qui se hérissent et peut-être qu'il part en courant de l'Église. Mais on va rediscuter de la notion de soumission, justement, selon Dieu. Alors, femme, soumettez-vous à votre mari, mais quand on connaît la suite, et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, etc. Alors, Christ, hein, parce que nous, en tant qu'hommes, c'est peut-être pas nous qui allons conduire notre femme à la sainteté, mais vous voyez ce que je veux dire. Christ s'est donné pour l'Église, donc mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et ce qui est encore dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Et dans la vision de l'apôtre Paul, il n'y a personne qui déteste son propre corps, en fait. Donc personne ne se déteste lui-même. Donc de la même manière, aimer, en fait, ça rejoint « aime ton prochain comme toi-même », bah, la même chose à l'échelle d'un couple. Et à la fin, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. On voit déjà cette vision de Dieu qui, c'est pas juste se soumettre, tais-toi et, comment dire, c'est pas juste se soumettre et se laisser écraser. Dans cette notion de soumission, c'est vraiment un respect de l'autre, un amour de l'autre, mais qui est très très profond. C'est pas juste je te respecte de loin et je te tolère vite fait. Non, il y a vraiment un amour beaucoup plus profond. Et on le retrouve dans ce qui est un mystère de Dieu, entre guillemets. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ils ne feront qu'un, en fait. Vraiment, cette notion de ne faire qu'un, ça montre que, dans l'idéal de Dieu, au niveau des relations, il y a cette notion d'unité qui est extrêmement forte. C'est pas juste cohabiter. C'est vraiment aimer en profondeur. Et faire qu'un, en fait. Alors ça, c'est dans le cadre des relations homme-femme. Et, enfin, homme-femme, mari et femme. Mais ça peut aller plus loin. On continue. Dans Galates 5, verset 15, « Frères, vous qui avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, par l'amour suivant les traditions, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accompli dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans Matthieu 22, versets 36 à 40. Bah, littéralement, les commandements les plus importants de la loi, aimer Dieu plus que tout et aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et ça, c'est important, c'est pas juste je te conseille d'aimer l'autre, c'est que si vous ne le faites pas, vous allez vous détruire l'un l'autre. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans ce que j'ai dit en guise d'introduction. Et après, il y a encore un point qui est encore plus surprenant en fait. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Dans 1 Corinthiens 6, versets 6 à 9. Parce que là, Paul est en train de faire des reproches aux Corinthiens sur le fait qu'ils se font des procès les uns les autres et qu'en plus, ils prennent des gens extérieurs à l'église pour se faire des procès. Et Paul, il n'en revient pas, il se dit, mais pourquoi vous êtes tellement dans la haine, dans la revendication, en fait? Pourquoi vous ne seriez pas plutôt prêt à souffrir une injustice pour aimer l'autre? Et ça, encore une fois, c'est un peu mystérieux, c'est... Comment dire? Parce que beaucoup vont se dire, mais attends, tu dis quoi? On doit être des victimes? C'est ça que tu es en train de nous dire? Et en fait, pas vraiment. Donc, un petit mot par rapport à la notion de soumission, de sacrifice, etc. Il y a des soumissions qui sont bonnes, dans le sens que oui, des fois, Dieu nous demande de faire certains compromis pour aimer l'autre. Mais après, il y a aussi, comment dire, des moments où des soumissions peuvent être vraiment malsaines. Et ça, vous le comprenez. On me parle souvent de pervers narcissiques. Il y a d'autres cas encore. Effectivement, si quelqu'un domine totalement l'autre, l'écrase et détruit sa personnalité, ce n'est pas une soumission selon Dieu, bah simplement parce que dans ce cas-là, il y a un humain qui prend la place de Dieu. Et je ne vais pas faire toute une étude biblique, mais rien que dans ce cas, bon, on se doute que ce n'est pas très sain. Et je vais terminer ce petit passage sur Dieu et les relations. Jean 13, verset 35, « Je vous donne un commandement nouveau. » Imaginez pour les Israélites à l'époque qui avaient toute la loi de Moïse en tête, avec œil pour œil, dent pour dent. Mais là, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Encore une fois, travailler sur les relations au sein d'une église, d'un couple, je ne sais pas, entre enfants et parents, entre enfants... entre, je sais pas, patron et n'importe qui. Il y a tellement de niveaux de relations qui existent, mais c'est tellement primordial à travailler. Je ne l'ai pas noté ici, mais l'apôtre Paul le dit, dans la mesure où cela dépend de vous, essayez de bien vous entendre avec tous les hommes. Il y a différents niveaux de relations, différents niveaux d'unité, mais malgré tout, c'est tellement central de se battre pour ça, en fait. Et ouais, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, en tout cas. Alors, par rapport à la notion d'unité dans l'Église et la notion de division, je voulais insister sur le fait que les divisions, que ce soit dans un couple, que ce soit à n'importe quel niveau de relation, ça fait partie de la stratégie, et je dirais même la stratégie principale de l'ennemi. Et j'aime beaucoup le début du livre de l'Ultimasso. Alors oui, je sais, j'aime beaucoup ce livre. Mais donc, juste pour rappel, ce livre est un livre prophétique, donc une image prophétique que Rick Joyner a reçue déjà il y a un petit moment, c'était en 96, et c'est une vision pour l'Église globale, en fait. Donc, il voit plusieurs choses, et Dieu l'enseigne sur plusieurs choses dans cette vision. Au début, le livre commence justement avec ceci, et j'ai un peu résumé. L'armée de démons était si nombreuse, voilà, il a vu une armée de démons, qu'elle s'étendait à l'infini, et était divisée en bataillons brandissant chacun sa bannière. Les tout premiers défilaient sous les bannières de l'orgueil, de la propre justice, vous savez, la vengeance, tout ça, de la respectabilité, de l'ambition égoïste, du jugement inique, donc ragot et, vous savez, les critiques pas du tout constructives, et de la jalousie. Cette armée marchait très précisément contre l'Église, mais attaquait aussi tout ce qu'elle pouvait. Donc, chrétien, pas chrétien, j'attaque tout le monde. La stratégie fondamentale de cette armée était de créer la division à tous les niveaux de relations existants, entre les églises, entre assemblées pasteurs, entre mari et femme, entre enfants et parents, et même parmi les enfants. Les éclaireurs étaient chargés de repérer les brèches dans les églises, les familles et les individus, brèches que le rejet, l'amertume, la luxure, enfin la perversité quoi, et autres démons pouvaient exploiter et agrandir. Alors évidemment là c'est très général, mais ça introduit ce que je veux dire par rapport aux hommes, justement. Justement, en prenant ce cadre d'une stratégie de l'ennemi qui a pour but de détruire l'Église en créant des divisions, il faut créer un contexte pour ça, en fait. Et un contexte que soit l'ennemi créé, soit alors la faiblesse de la chair, j'ai envie de dire des fois simplement que, n'étant pas parfait, ben, on peut aussi accumuler des choses. En fait, c'est de créer en gros une pression dans la société, une pression dans la vie de tous les jours, une pression dans les pensées qui va préparer le terrain pour des tentations et des blessures. Alors, c'est vrai qu'en écrivant ces pressions, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que les hommes qui sont concernés. Donc, oui, je veux dire, ça peut aussi concerner les femmes. Mais c'est vrai qu'au début, je pensais surtout aux hommes, mais ça peut concerner chacun en réalité. Et voilà, ces problèmes, ça peut être faire face à des problèmes de santé ou psychologiques, ça peut être l'absence de sens au travail. Je pense à des hommes qui travaillent, je sais pas, 40 heures par semaine, ou plus, même il y a des trucs des fois assez fous, et qui après ont plus de temps pour leur famille et se disent « mais pourquoi je fais ça en fait ?» Je pense, voilà, le fait de devoir porter sa famille, que ce soit financièrement, que ce soit sur d'autres points encore, ça peut être, j'ai mis insensibilité, hypersensibilité, dans le sens que parmi les hommes, on a vraiment de tout, hein, en fait. Et on peut avoir des hommes qui deviennent insensibles aux besoins des autres, et parfois je les ai vus se dire, mais est-ce que c'est normal, en fait, que j'en ai rien à faire des autres? Et vraiment, c'était un vrai questionnement, en fait, pourquoi je suis devenu insensible à la vie, quelque part? Et d'autres, au contraire, qui ont connu plutôt l'hypersensibilité, personnellement, moi, j'aurais été plutôt dans cette catégorie, qui, au contraire, voilà, ont l'impression d'être détruits partout, et se disent, mais comment je peux être un homme fort dans ce cas-là, en fait? En parlant d'homme fort, il y a justement cette pression de la société qui, des fois, met cette image qu'il faut un homme fort, ou à l'inverse, hein, j'ai envie de dire, ça dépend où et dans quelle société. Il y a aussi l'incapacité à régler des problèmes qui vont des fois durer pas juste un mois, hein, mais des fois 5 mois, 5 ans, voire 50 ans. Il y a des fois des problèmes qui ne se règlent pas, et quand ça dure très, 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 très longtemps, c'est là que l'usure s'installe et qu'on peut être à bout. Voilà, j'ai aussi évoqué le féminisme qui ne laisse pas de place à l'homme. Il y a plusieurs définitions du féminisme, et je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais il existe quand même des formes de féminisme où c'est vraiment la femme qui veut se débarrasser de l'homme, qui veut l'écraser, qui veut pas juste réclamer ses droits, mais comme dit, écraser l'autre, en fait. Et là, quand les hommes sont constamment confrontés à ça, ben, ça, voilà, c'est pas génial non plus. Bref, il y a encore plein d'autres choses. J'ai un peu noté un petit brainstorming ici, c'est une liste non exhaustive. Et tout ça prépare en fait la place aux tentations. Donc en réalité, quand on est face à un excès de pression, il y a deux manières de réagir. Enfin, deux manières malsaines, je veux dire. Soit je m'autodétruis face à la pression, donc voilà, sans aller jusqu'au suicide, mais voilà, ça peut être des comportements autodestructeurs, et il y a aussi des tentations quelque part qui viennent avec ce genre de comportement. Soit alors, on peut réagir en étant, au contraire, au lieu d'être autodestructeur, ben en étant destructeur autour de nous. Et c'est aussi une façon de réagir de manière malsaine face aux pressions. Évidemment, la bonne manière d'agir, c'est de chercher auprès de Dieu, de chercher de l'aide, mais ça, on revient dessus après. Je vous ai mis quelques phrases typiques qui viennent, qui pour moi sont très significatives des tentations auxquelles on peut faire face. Quand il y a une tentation où, voilà, on se dit c'est pas si grave, allez, c'est, je sais pas, ce n'est qu'un petit sachet de cocaïne, je pense pas que beaucoup sont concernés par ça ici, mais, mais ça peut être un verre d'alcool, ça peut être même la télévision, YouTube, ou même, je sais pas, TikTok pour les plus jeunes, il y a plein de, comment dire, de choses qui peuvent nous rendre esclaves, en fait. Même en parlant de c'est pas si grave, c'est vrai que, comme la petite image un peu comique que j'ai mis, il y a aussi bien sûr beaucoup d'hommes qui ont été tentés de voir ailleurs par rapport à leur couple. Et quand je dis ça, je reviendrai dessus, mais combien de fois j'ai vu ça, en fait. Je trouve ça ahurissant dans le milieu chrétien de voir la quantité de femmes qui ont été abandonnées par leur mari. Ouais, bon, je reviens un peu dessus après, mais c'est vrai que j'étais vraiment très surpris de voir ça. Bon, après, voilà, juste une fois, après j'arrête, ça c'est typique d'une boucle de cercle vicieux dans laquelle on est. Quand on a déjà accepté la tentation et qu'on est encore dedans, que ça revient, là on a vraiment besoin de demander à quelqu'un d'autre d'extérieur de nous aider à arrêter. Parce que souvent on se dit, ça va, je suis assez fort, je peux affronter ça, hein, surtout que je me dis en tant qu'homme, des fois on peut avoir parfois un petit orgueil mal placé. Et en réalité, si on est un minimum honnête, bon, c'est la 300e fois que je tombe dans ce péché, donc peut-être qu'il faut que je demande de l'aide maintenant. Ça peut arriver aussi. Autre point, il n'y a pas que la faiblesse, il y a aussi l'orgueil qui peut rentrer en jeu. J'ai bien le droit de me faire plaisir après tout ce que j'ai subi, en fait. Ça, typiquement, encore une fois, je dis ça pour les hommes, mais les femmes peuvent aussi être concernées. Et quand je parle d'un mari qui trompe sa femme, c'est ce qui est arrivé. Hein. Oh, franchement, il m'en a fait voir de tellement de toutes les couleurs, et puis bon, j'ai qu'une vie, j'ai bien le droit de me faire plaisir. Et franchement, vous n'imaginez pas les conversations que j'ai pu des fois entendre quand je travaille à l'usine, en job d'été parfois. C'est fou de se dire qu'on peut être aussi égocentrique. Mais c'est typique, la tentation vient quand on finit par se centrer sur soi en fait. Et le fait de se centrer sur soi, pardon, ça vient soit face à l'orgueil, soit face à l'insécurité. En fait, si on est en mode survie, on se replie sur soi-même. Donc l'insécurité provoque aussi un repliement sur soi. Et après, il y a l'orgueil évidemment. Quand on arrête de penser aux autres et qu'on se met supérieur aux autres, forcément, l'égocentrisme finit par détruire. Voilà, il y a encore d'autres. Quand je vous parlais d'insécurité ou de honte, je ne l'ai pas trop évoqué. De toute manière, c'est trop tard. Je suis déjà allé trop loin. Effectivement, ça, c'est vraiment une stratégie de l'ennemi. Entre guillemets, de te prendre la carotte pour te faire tomber quelque part. Et une fois que tu es tombé, il te donne des coups de pied en disant « tu n'arriveras pas à te relever, hein, c'est trop tard ». Et non, je reviendrai dessus après encore, mais pour tous ceux qui sont tombés dans des compromis, et même des compromis qui durent longtemps et qui ont eu des conséquences même graves, mais n'acceptez pas cette honte, pas en disant que ce n'a pas été grave, qu'il n'y a pas eu de conséquences, mais en disant que tant que j'ai un souffle de vie, on peut encore régler ça, on peut encore voir Dieu agir là-dedans, et il ne faut pas lâcher en fait, même si c'est la 700e, la 1000e fois qu'on fait face à tel péché, vraiment juste tant qu'on a un souffle de vie, ça vaut le coup de ne pas laisser tomber. Ouais, donc effectivement la honte c'est aussi très, très destructeur, hein. C'est un peu comme... mettre un verrou lorsque quelqu'un est déjà tombé. Et après, enfin, je ne vois pas en quoi c'est si mal. Typiquement, combien de fois j'ai entendu ça ? Ouais, je vois pas en quoi c'est si mal. Hein. Enfin, je vois plusieurs femmes et tout. Je couche à droite, à gauche, je vois pas le problème. Moi, je vis ça très bien. Ouais, peut-être, mais tu vois peut-être pas tous les dégâts que t'as provoqués autour. Et ça, c'est encore autre chose. Bref. En parlant de vie détruite, alors... Je suis un peu déçu de ne pas avoir réussi à retrouver tous les témoignages qui concernaient ce genre de choses. J'ai mis un exemple que j'ai réussi à retrouver. Alors je ne sais pas si c'est la meilleure vidéo, parce que c'est vrai que coupé en quatre a une présentation de vidéo assez originale. Donc à voir si vous adhérez ou pas. Néanmoins, leur témoignage est quand même intéressant. Leur témoignage, justement, c'était un couple où tous les deux se sont trompés l'un l'autre, et leur couple était une véritable catastrophe, alors qu'ils étaient déjà chrétiens. Et en fait, au bout d'un moment, Dieu les a vraiment repris et ils ont fait tous les deux le choix de vraiment se mettre devant Dieu, de changer leur vie. Et c'est un peu ce qu'ils racontent dans leur témoignage. Ils ont réussi à se reconstruire, même après plusieurs adultères. Mais en fait, quand on écoute leur témoignage même, ils parlent pas tellement de l'adultère en eux-mêmes. Ils parlent surtout à quel point leur couple était devenu catastrophique et comment Dieu a guéri ça. Donc c'est plus général en fait, c'est pas... Souvent, quand il y a de l'adultère, c'est un péché qui est là parce qu'il y avait d'autres choses derrière, en fait. Et après, j'ai un autre témoignage que du coup je n'ai pas sous la main parce que j'ai pas retrouvé le bouquin, encore une fois. Mais c'est le témoignage d'un pasteur américain. Et il est amené à beaucoup voyager pour faire son travail de pasteur. Et en fait, au bout d'un moment, il s'est laissé tenter. Il a commencé à tromper sa femme et à avoir une maîtresse. Pendant qu'il voyageait, et vu qu'il était presque jamais avec sa famille, etc. C'est très tentant pour des hommes qui voyagent beaucoup, et des femmes aussi, hein, de tromper son conjoint quand on le voit jamais, en fait. Et au bout d'un moment, ça s'est su, en fait. Et donc, il a été obligé d'avouer ce dans quoi il était. Et vous ne le savez peut-être pas, mais au niveau des États-Unis, si vous êtes pasteur, qu'on découvre que vous trompiez votre femme, en gros, vous perdez votre poste de pasteur. Donc, en gros... Lorsque ça s'est découvert, non seulement c'était l'humiliation devant plusieurs églises avec un grand nombre de personnes, c'était l'humiliation auprès de sa femme, qui a honte à quel point elle avait juste envie de vomir d'apprendre ça, et c'était l'humiliation de perdre tous les revenus, parce qu'il n'avait aucun autre diplôme que celui de pasteur, donc il n'avait plus de revenus pour leur maison, qu'ils ont été obligés de vendre, et ça a eu des grosses conséquences. Malgré tout, alors ça demandait un certain temps, sa femme n'avait pas envie, mais elle a fait le choix de pardonner, parce que c'était ce que Dieu lui demandait. En gros, je résume le témoignage, mais c'était un peu ça. Ils ont donc pu reconstruire leur couple, en allant au-delà de la honte, etc. Mais voilà, pour reprendre ce que disait l'homme après tout ça, quand vous faites un péché de ce genre, il y a des conséquences. Il y a la grâce de Dieu aussi pour que la vie ne s'arrête pas là, mais il y a quand même des conséquences. Et c'est ce que je voulais dire aussi à tous les hommes qui font face à des batailles pas évidentes, quel que soit le domaine. Ça vaut le coup de ne pas faire de compromis, parce que chaque compromis a quand même des conséquences, plus ou moins intenses en fonction du type de compromis, mais quand même. Et c'est vrai qu'il y a toujours la grâce de Dieu pour nous aider à sortir des compromis, mais voilà, c'est aussi quelque part la grâce de Dieu qui a des conséquences et qu'on ne devienne pas complètement aveugle au péché. Mais Dieu après nous aide à sortir de ses péchés si on revient à lui, parce qu'après tout le monde ne revient pas forcément à lui. Ouais. Et voilà, je vous racontais aussi que des fois, via le réseau RNC, je suis venu à quelques réunions, et notamment ça parlait de couples, et donc ils avaient séparé les familles, les couples avec les célibataires. Je me suis retrouvé avec les célibataires, et j'étais vraiment surpris de voir qu'en fait 90% des personnes qui étaient là à ce groupe, c'était en fait des femmes qui avaient été trompées ou rejetées par leur mari. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'on ait de telles proportions en milieu chrétien? Et après, forcément, ça suscite de la colère, de l'incompréhension. Mais je sais aussi qu'il ne faut pas laisser ce genre de choses conquérir le cœur, en fait. Donc bon, je m'en suis remis à Dieu. Et autant que possible, j'ai essayé d'encourager les personnes que je rencontrais. Je me suis aussi rendu compte que parfois, être un homme qui simplement reste fidèle dans ses valeurs, sans faire grand-chose, mais juste être un homme de Dieu qui est là, c'est déjà beaucoup en soi, en fait. Car combien d'hommes ont décidé de faire le mauvais choix, en fait. Et même, je connaissais quelqu'un qui était à Josué ici il y a très longtemps, qui même avait voulu enseigner auprès des jeunes, qui avait insisté pour ça, même si ça n'a pas été accepté. Et cet homme-là, en fait, bon voilà, au bout d'un certain temps, on a appris que bon, il avait laissé tomber sa famille et qu'il est sorti avec une jeune fille qui était 20 ans plus jeune que lui, et on se doute bien ce qu'il avait derrière la tête à ce moment-là. Donc, ouais, combien de fois j'ai entendu ou vu des hommes qui ont fait le choix de laisser tomber leur femme en se disant « je veux profiter de ma vie » voilà, ils se sont sortis avec une femme qui était beaucoup plus jeune et voilà. Bref. Alors, je vais pas trop m'attarder sur l'identité de l'homme, surtout que le temps passe. Néanmoins, je vous conseille quand même le livre. Le livre de Sandra et Julien Duby qui s'appelle « Toi, lève-toi ». C'est quelque chose de général sur l'identité et aussi par rapport au fait d'être pasteur, etc. Mais ils évoquent leur relation de couple et leur identité en tant qu'homme ou femme. J'aime bien quand Julien Duby parle de l'identité d'homme, je le rejoins sur plusieurs points de vue. Ouais, notamment quand on parle de comment sont perçus les hommes aujourd'hui, comme quoi on est passé d'un machisme très très fort qui était dans les années quoi 70-80 et avant, et qu'on est passé dans la culture aujourd'hui à des hommes qui se font, qui doivent être absolument sauvés par la princesse, qui sont en fait tout le temps des comiques, qui finalement sont extrêmement faibles. Et pour lui, c'était pas juste de tomber dans cette image d'un homme qui doit tout le temps se faire écraser par la femme non plus. Donc il y a un équilibre à avoir, il parle un peu de ça, et surtout qu'est-ce que c'est que d'être un homme en Dieu en fait. Mais je vais pas rentrer dans tous les détails, comme dit. Je vous laisserai lire le livre, voilà, je fais un peu de pub. Mais et surtout qu'en plus, il y a des formations liées à l'identité qui normalement sont proposées par leur église. Bref, mais on va quand même évoquer quelques points par rapport à l'identité d'homme, et après j'arriverai sur la notion de véritable noblesse. Alors pourquoi noblesse? Parce que c'est... en tant qu'homme, pour moi c'est important, je pense que ça parle aux hommes quand on parle de noblesse. Pourquoi il est important de se battre dans la vie en fait? Quel est le but, la réussite véritable dans la vie? Bien. Alors, devenir un vrai homme, qu'est-ce que vous voyez ici? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà vues? Bon, Trump, j'imagine qu'on le voit assez souvent, mais... Alors, peut-être que la plupart des images que vous voyez là concernent plutôt des jeunes hommes que des hommes au-dessus de 20 ans. Voilà, on va dire ça comme ça. Kaizen, typiquement, c'est le youtubeur Inoxtag qui a fait beaucoup parler de lui, qui est assez connu, et qui a gravi l'Everest. Et c'est un grand défenseur de la mentalité Kaizen, qui signifie... Alors, Kain, c'est pour changement, développement, et Zen, comme le mot Zen, paix et ce genre de choses, en fait. Donc, en gros, changement dans la paix, c'est toute une mentalité de développement personnel, en fait. Donc, parmi tant d'autres, il y en a tellement des mentalités des processus de développement personnel, mais... le point commun, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'accomplissement de soi. Et ça paraît bon, en fait. Il y a vraiment des bons conseils, en réalité. Avoir telle ou telle méthode, vous savez, les morning routine. Donc vraiment, chaque matin, je fais ma petite tradition, je mange tel truc, je bois tel truc, et je fais sans pompe, j'en sais rien. Non, c'est pas ce que je fais moi, mais je... je fais quand même. Ouais. Mais vraiment, l'idée que... Voilà, l'accomplissement de l'homme va passer par des exploits comme gravir des montagnes ou par des richesses comme, bon, j'ai pas trouvé un exemple concret, donc j'ai mis une image d'un homme riche avec une belle montre dans une voiture riche. Et ou alors par la beauté physique ou les compétences physiques, en fait. Et je vous ai mis, franchement, j'ai pas dû chercher longtemps pour avoir cette image sur YouTube. J'ai juste fait comment se muscler sur YouTube et je suis tombé là-dessus sur comment construire un physique esthétique. Et vous aurez un mélange de vidéos, soit générées par IA, soit de vrais YouTubeurs ou coachs qui sont là à vous dire comment devenir un vrai mec et pas un mâle lambda ou sigma comme on peut l'entendre des fois parmi les jeunes. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'on parle beaucoup des pressions qui sont mises aux femmes et je pense qu'il faudrait mieux qu'une femme enseigne à ce sujet. Mais c'est aussi le cas du côté des hommes. Et je voulais insister vraiment sur le fait que, ouais, mais c'est quoi la réussite en fait? Moi je pense à nos jeunes hommes qui ont vraiment des désirs, qui veulent devenir riches, qui veulent ci et ça, et j'essaie de leur parler, mais c'est quoi la vraie réussite selon vous? Déjà, est-ce que t'es vraiment heureux si t'es riche? Je peux citer tout un cas d'exemples, comme Jim Carrey par exemple, qui vont vous dire que même en étant riche, t'es pas forcément heureux. Surtout que même la Bible évoque le fait que être riche, ben, tu vas pas emporter ça dans ta tombe. Donc c'est très éphémère. Et même, il y a d'autres choses. Si j'ai mis Trump, c'est pas que pour la richesse, c'est aussi pour la notion... est-ce que être célèbre, être un homme politique important, être reconnu par un grand nombre de personnes, avoir l'autorité de changer des nations, est-ce que c'est ça la vraie réussite pour un homme, en fait? Et la Bible est assez claire à ce sujet, même si c'est clairement pas à la mode. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui deviennent tous pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé de Kaizen avant? C'est un peu ça, en fait. Il y a plein de préceptes. Faire ci, fais ça. Mange pas ci, mange pas ça. Alors, comprenez bien, par rapport au régime alimentaire, ça dépend de la santé. Hein. Des fois, c'est nécessaire d'avoir un régime. Moi, je dois faire un peu attention à certains aliments, via les intestins, etc. Donc, il y a un côté médical qu'il faut des fois respecter. Mais là, quand je parle de Kaizen, j'ai vu plusieurs jeunes vraiment être au gramme près à mesurer la quantité de protéines, au gramme près, pareil pour la créatinine, et tous les trucs pour devenir, vous savez, super musclé et optimisé, à rentrer en fait, via les salles de muscu, à rentrer dans une religion de la muscu en fait. Et j'ai envie de dire que dans chaque sport, on peut avoir cette forme de religion. Et c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant ce que dit Paul, même si à son époque c'était davantage pour des questions religieuses. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on s'impose des préceptes de mode de vie sachant qu'il n'y a qu'une apparence de sagesse, en fait? Ouais. Alors, comprenez bien, je critique le développement personnel. Ça ne signifie pas qu'il faut s'autodétruire. Je veux dire, Dieu nous dit d'aimer l'autre comme soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut se détester. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser totalement son corps. Mais il ne faut pas en faire une idole. Et c'est ça que je critique dans le développement personnel. C'est de faire du corps ou des compétences physiques une idole. Psaume 144, verset 4. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle et ses jours sont comme l'ombre qui passe. Alors ça pour moi, c'est vraiment la différence entre un homme... Enfin, comment dire? C'est vraiment une étape importante dans la maturité pour la vie d'un homme. Quand, au début, il pense qu'il peut accomplir tout ce qu'il veut par lui-même et qu'en bout d'un moment, il se rend compte qu'il a réellement des limites et qu'il est obligé de compter sur Dieu, en fait. Ça, c'est une part importante, l'humilité. Luc 16, versets 14 à 15. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela. Ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Je pense à une petite phrase qu'on m'a dit une fois. c'est que... Ouais, voilà, une petite blague. On disait, une femme raconte, ouais, mon mari, enfin mon homme, il a gravi l'Everest, il faisait le tour du monde, il a réussi à, je sais pas, gravir tel building, etc. Mais bon, je l'ai quand même quitté. Et l'autre personne qui lui dit, mais pourquoi t'as fait ça? Bah, il était jamais à la maison, en fait. Et cette phrase me parle beaucoup dans le sens, effectivement, gravir l'Everest, est-ce que c'est si important quand on y réfléchit? Pourquoi est-ce qu'on gravit l'Everest? Pourquoi des hommes font ça? Et souvent, il y a une certaine volonté de gloire derrière, ou même, à titre plus personnel, une volonté de se dire qu'on a accompli quelque chose dans la vie. Et c'est là où, en fait, on va être vraiment différent par rapport aux gens du monde. C'est quoi la réussite ou l'accomplissement d'un homme selon Dieu, en fait? Des fois, ça peut être assez pernicieux. Est-ce que réussir dans la vie, c'est forcément avoir une famille avec un sourire Colgate et le seul, celui qui se couche en fond et tous les enfants sont constamment heureux? Et... Vous rigolez, mais en tant que célibataire, des fois, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir raté ma vie parce que, arrivé à un certain âge, je n'avais pas une famille et que quelque part, c'est un peu ancré dans la notion de réussite. La famille est une très bonne chose, c'est une vraie bénédiction et je suis à fond dedans. Mais ce qui peut être pernicieux derrière, c'est l'idée que c'est vraiment ça qui te rend heureux, que c'est l'objectif de réussite. Et tous ceux qui ont une famille savent que, en réalité, il y a quand même des défis, hein, que tout n'est pas parfait avec un sourire Colgate, en fait. Et à côté, je vous ai mis une image avec des chrétiens là qui louent. On peut les imaginer en train de prêcher devant des foules. Et c'est vrai que, je ne sais pas pour vous, mais en tant que chrétien, je me suis demandé, mais et si je ne convertis pas des centaines de personnes? Et si à la fin de ma vie, je n'ai pas convaincu, béni des milliers de personnes? Est-ce que j'aurais réellement réussi ma vie devant Dieu, en fait? Et c'est aussi un côté qui peut être pernicieux que, comment dire, d'être dans une forme de performance chrétienne, en fait. Et ça ne correspond pas à ce que Dieu nous dit. Et c'est là que j'arrive à ma dernière partie. Qu'est-ce que la véritable noblesse, en fait? Comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église, pardon. Dans Matthieu 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié aussi dans le ciel. Pourquoi je mets ça? Pour insister sur le fait que ça vaut la peine de se battre pour les bonnes choses. Que ça ne va pas seulement durer que sur terre, mais jusque dans l'éternité. Et l'éternité, c'est quand même assez grand quand on y réfléchit. Donc... Tenir sa position. Il y a une louange que j'apprécie beaucoup, vous pouvez la chercher sur internet, qui s'appelle « Stand my ground ». En anglais, ça veut dire « tenir sa position ». Donc, juste ce point en fait. Quand une épreuve dure extrêmement longtemps, quand la vie de tous les jours semble dépourvue de sens et qu'il faut juste tenir, est-ce que vraiment, franchement, est-ce que ça vaut le coup ce que je fais en fait? De juste, je sais pas, travailler 40 heures par semaine pour que ma famille ait de quoi manger, de rester chrétien, en fait, des fois, c'est aussi un vrai combat. Il y a plein de points où juste, pas forcément accomplir une grande chose, mais juste rester et tenir la position. Rien que ça, c'est extrêmement noble, en fait. Alors, je parle de ça spirituellement, mais aussi physiquement. J'ai évoqué ces hommes qui ont abandonné leur famille pour se refaire une vie, parce que c'était trop galère avec leur conjointe, parce qu'ils en avaient marre des enfants, parce qu'ils se sont dit que bon, j'ai 40 ans, maintenant je dois profiter de ma vie. Tous ces hommes qui ont choisi de partir et qui ont fait le mauvais choix ne voient pas les dégâts qu'ils ont faits. Et ça, c'est un point où je veux vraiment honorer tous ceux qui ont choisi de tenir leur position, de rester physiquement auprès de leur famille, auprès de leurs amis, auprès de leur église, ou de... Voilà, n'importe où Dieu leur demandait de rester, en fait. Et rien que ça, même si on n'a pas l'impression d'accomplir grand-chose, rien que ça, c'est extrêmement noble. Et vraiment, à tous ceux qui sont restés fidèles là-dedans, je veux vraiment dire, un grand merci. Vous ne mesurez pas le poids de gloire et vous ne mesurez pas les bénédictions que vous donnez simplement en étant physiquement quelque part, sans faire quelque chose, mais juste être quelque part. Un autre point, ne pas gâcher les épreuves. Et là, je vous prends quelques extraits de l'appel ultime, qui est la suite de l'ultime assaut. Et je vous assure, je ne suis pas sponsorisé par Rick Joyner, mais il y a vraiment plusieurs points qui m'ont parlé dans ces livres prophétiques et qui, pour moi, sont en accord avec ce qui est dit dans la Bible. Donc, tout à fait. Donc là, ils sont tous les deux à parler du découragement dans cette vision. C'est l'auteur qui s'adresse, en fait, à un jeune apôtre. Et ils discutent ensemble. Donc voilà, tout à fait, le découragement est somme toute le commencement de la perte de la capacité à discerner, disais-je, donc l'auteur. Pour atteindre nos objectifs, nous avons l'obligation de résister au découragement sous toutes ses formes, car le découragement aveugle. L'une des premières leçons à apprendre, c'est de ne gaspiller aucune épreuve, mais de saisir toutes les occasions que chacune représente. J'ai fait une faute de frappe. Si ton chemin paraît plus difficile, c'est à cause de ton appel plus élevé. Mais vraiment ce point de ne gaspiller aucune épreuve. Et là, je reprends aussi un texte que je vous avais déjà montré il y a quelques mois lorsque j'avais fait le message sur les voleurs de joie. Quand tu adores sans voir sa gloire au milieu de tes épreuves, voilà l'adoration en esprit et en vérité. Le Père en cherche de tels pour être ses adorateurs. Ne gâche pas tes épreuves. Adore le Père, non pas pour ce que tu recevras, mais pour lui apporter de la joie. Tu ne seras jamais plus fort que quand tu lui apportes de la joie, car la joie du Seigneur est ta force. Et même si on ne la ressent pas toujours cette force, je vous assure qu'il y a réellement ça. En réalité, dans des épreuves qui sont vraiment longues et qui ne sont pas évidentes, la réalité, c'est que 90% du temps, on se sent dépassé. Il y a peut-être 10% du temps, on reçoit des choses de Dieu et on ressent peut-être la joie ou des choses assez fortes dans l'adoration. Mais 90% du temps, c'est dur. C'est une vraie épreuve. Ce ne serait pas une épreuve si ce n'était pas dur, en fait. Donc, ne pas gâcher les épreuves, parce que dans chaque combat, même si on a l'impression que franchement, on a tout échoué, que ça ne sert plus à rien, pourquoi est-ce que je continue, même s'il y a tout ça, juste le fait de tenir sa position, comme j'ai dit avant, c'est extrêmement précieux. Autant pour ce qu'on a à apprendre de Dieu que pour le fait de rester stable pour les gens qui nous entourent. Et dans chaque épreuve, il y a vraiment des enseignements de Dieu. Quand on prend le temps d'écouter Dieu, même si sur le coup, on a l'impression que ça ne sert à rien de persévérer, après coup, on se rend compte que, ah mais quand même, c'est dans cette épreuve que j'ai appris ça. C'est dans cette épreuve que j'ai eu la conviction de ci et ça. Et c'est extrêmement précieux, quoi. Notion de confiance. Alors, dans le total opposé de la notion de Kaizen donc, que je vous ai cité avant, et je pense que ceux qui sont à fond dedans, ils auraient déjà les poils qui s'hérissent, mais j'aime beaucoup cet extrait qui est dans l'Ultime Assaut, où en fait, l'auteur et Jésus ont une conversation. Et là, c'est Jésus qui s'adresse à lui. Il t'est avantageux de perdre confiance en toi. Sinon, je ne pourrais pas te confier la puissance des temps à venir. Moins tu auras confiance en toi, plus je te confierai de puissance. Si, trois petits points. Et là, j'attendis longtemps la suite. Mais le Seigneur ne dit rien. Je savais en quelque sorte qu'il voulait que je continue la phrase, mais je ne savais pas quoi dire. Cependant, plus je le regardais, plus j'éprouvais d'assurance en moi. Et finalement, oui, je sus quoi dire. Si je mets ma confiance en toi, ajoutai-je. Oui, tu dois avoir la foi pour faire ce à quoi tu as été appelé. Mais c'est la foi en moi. Ce n'est pas suffisant de perdre confiance en toi. Cela n'aboutit qu'à l'insécurité si tu ne remplis pas le vide par la confiance en moi. Et pour moi, c'est un truc qui m'a tellement parlé dans le sens, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi je suis constamment face à des situations où je me sens en insécurité? Pourquoi, typiquement, la situation que je ne voulais pas avoir, tu me mets dedans et je me sens en insécurité? Et ouais, combien de fois c'est arrivé? Et en réalité, j'ai vu vraiment Dieu m'enseigner au travers de ça. Il me mettait dans la situation où j'avais une crainte qui n'était pas réglée. Et dans cette situation, quand vraiment j'avais perdu la confiance en moi, il me disait, aie confiance en moi en fait. Et il m'a montré par plein de petits points comment avoir confiance en lui. Alors en réalité, on apprend toute sa vie, hein, dans plein de situations différentes, etc. Mais pour moi, cette notion, ouais, l'importance de ne pas être dans l'orgueil, de perdre d'abord sa confiance en soi, et après de remplacer le vide par la confiance en Dieu, c'est quelque chose de tellement important. Vraiment après, quand tu te dis, ok, j'ai aucune idée comment je vais sortir de cette situation, je suis dépassé, mais j'ai confiance en toi, donc voilà, je m'attends à toi, hein, je peux pas faire grand chose de plus. Ce qui m'amène d'ailleurs à un dernier point, ou avant-dernier plutôt. La notion de patience. Typiquement, faire confiance à Dieu, c'est souvent une notion de patience. Et vraiment, moi je suis en plein dedans. C'est vraiment ce chapitre sur la patience dans ce livre, Vision pour un projet divin, qui est écrit par Stephen Finn, et etc. Ça me parle énormément. Moi, je trouve ça bouleversant. Je vous ai mis que des extraits, car je ne peux pas vous mettre des bouquins entiers sur des diapos. Mais, mais quand même. On va rapidement lire. Donc, l'auteur... Non, introduction quand même. En fait, il faut savoir que l'auteur a ouvert... Enfin, il est gestionnaire aujourd'hui d'un centre qui s'appelle Chestnut Mountain Ranch. Donc, en gros, c'est un centre pour accueillir des jeunes en difficulté. Ce serait un peu comme le Bercail, à côté. Seulement, eux, je crois que c'est que des garçons qu'ils accueillent ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, un grand centre. Hein. Je ne sais plus combien d'hectares ils ont, mais ils ont un grand, grand terrain, quoi. C'est vraiment grand. Mais ça ne s'est pas fait d'un coup. Et l'auteur raconte à quel point ça a été long d'ouvrir cette œuvre et de persévérer avec Dieu, alors que ça faisait longtemps qu'il avait cette conviction que ça devait se faire, mais bon, ça a mis des plombes à se faire. Donc, 35 ans, c'est long. Et beaucoup de choses se sont passées depuis la mort de mon père. Je me suis égaré durant l'adolescence, et finalement, à 20 ans, j'ai atterri dans les forces de police, en tant que policier, hein, je tiens à préciser. Et j'y suis resté pendant 11 ans, et après... Et après quelques années passées à Eagle Ranch, qui est un autre centre, nous nous sommes installés en 2005, avec sa femme, en Virginie occidentale. Le chemin a été long, et la chose principale que j'ai apprise durant ce processus divin, donc tout ce qui était lié à l'ouverture de Chestnut Mountain Ranch, c'est qu'il requiert beaucoup de patience. 35 ans. Certains d'entre vous, lecteurs, n'ont même pas encore vécu aussi longtemps. C'est plus que les deux tiers de mon existence. Une chose dont je suis persuadé, en ce qui concerne Dieu, c'est qu'il n'est jamais pressé. Il a laissé les Israélites en captivité pendant 400 ans, et ensuite ils ont vécu encore 40 années d'errance avant d'entrer dans la terre promise. Et pendant les 40 années que Dieu a consacrées à la préparation de Moïse, ce dernier gardait le troupeau de son beau-père. Non mais vous imaginez arriver à 40 ans juste comme un berger qui s'occupe de moutons, et après, faut sauver le peuple d'Israël. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des appels qui viennent que de manière très tardive. On peut passer des fois des très longues périodes en ayant l'impression que ça ne sert à rien, en fait. Jésus a attendu 30 ans avant de commencer à exercer son ministère, et cela fait pratiquement 2000 ans que nous attendons son retour. Dieu fait les choses pour une bonne raison et dans une bonne intention. Ma mère ne m'a pas laissé conduire avant que j'aie 17 ans, pour l'auteur. Hein. J'ai détesté attendre, mais c'était dans l'intérêt de tous. Pour le mien, pour celui des autres automobilistes, et aussi des piétons qui, d'une certaine manière, faisaient confiance à mes parents pour prendre des décisions avisées concernant leur fils. Donc voilà, la patience est une bonne chose. Quelle que soit votre définition de la patience, voici la mienne, attendre. Nous avons besoin de patience uniquement lorsqu'on doit attendre que quelque chose se passe. Et pour ceux d'entre nous que Dieu a dotés d'un esprit d'entreprise, attendre n'est pas inné. Nous avons tendance à nous précipiter. Quand nous voyons une ouverture, nous nous y engouffrons, prêts à agir, car notre plus grande crainte, est de passer à côté d'une occasion qui risque de ne plus se présenter. Et je ne sais pas pour vous, mais moi c'est quelque chose que j'ai ressenti plus d'une fois, vraiment. Pour témoigner un peu, et je n'ai pas tout noté parce que c'est un peu long, mais je vais vous résumer. En fait, l'auteur donne un témoignage à ce sujet. Il y a eu un moment où il venait d'ouvrir l'œuvre, il y avait déjà plein d'employés, ça tournait, etc. Et il y a son conseiller financier qui arrive en lui disant « Voilà, c'est bientôt Noël, mais on n'a pas de quoi payer les salaires. » Voilà, voilà. Et je pense que ça parlera à certains. Ouais. Et quand on lui a dit ça, il était là « Bon, ok, je vais y réfléchir. » Il a pris donc un temps de prière et il s'est rendu compte qu'il avait deux choix. Premier choix, il panique. Il va essayer de mobiliser un maximum tous les donateurs. Il va prendre tous ceux qui avaient un minimum d'intérêt pour son centre. Donc même le facteur, la voisine, etc. Tout le monde doit se mobiliser et donner un peu. Et voilà, courir constamment après tout le monde pour justement combler le manque financier, en fait. Et après, la deuxième option, c'était de compter sur Dieu. Et ce qu'il a eu à cœur, en fait, en priant, c'était de prendre 3 jours où personne n'allait s'activer. Ils allaient se mettre en veille, mais faire un jeûne de 3 jours tous ensemble avec le centre pour cette situation. Ils ont donc fait ça. Ils ont tout arrêté, ils n'ont pas cédé à la panique en courant après tout le monde. Ils ont juste pris le temps de prier et de faire un jeûne en soi. Et voilà, au point en fait, ce qui était vraiment impressionnant, c'est qu'ils racontent à quel point ils ont eu la paix pendant ce temps. Et je pense que c'est vraiment le marqueur. Ils ont eu de la paix pour cette occasion-là. Alors je ne dis pas que dès qu'on manque de finances, il faut absolument s'arrêter et jeûner. Je pense que Dieu donne des indications différentes d'une situation à l'autre. Mais dans ce cas-là, quand même, c'était vraiment fort de voir à quel point ils ont eu la paix. Et quand le jeûne était fini, sachant que la situation n'était toujours pas réglée, hein, quand le jeûne était fini, voilà, ils se sont fait un petit festin pour arrêter le jeûne. C'est pas toujours conseillé, mais ils l'ont fait. Et pendant ce temps, en fait, le téléphone a sonné. Et à la fin de ce jeûne, quand il a décroché le téléphone, quelqu'un a eu à cœur de leur donner 8 000 $, comme ça, d'un coup, en fait. Et ça correspondait à leur manque. Donc, il raconte plusieurs témoignages dans le livre de plein de cas de situations qui m'ont beaucoup rappelé les débuts du Daniel, honnêtement. Où vraiment, ils n'avaient plus rien, c'était la catastrophe. Et c'est dans la boîte aux lettres qu'ils découvrent l'argent nécessaire pour combler les manques, sachant qu'ils n'avaient fait que prier et qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre. Et il raconte beaucoup de situations semblables, en fait. Mais son intérêt, lui, c'était pas juste de dire que face au manque de finances, il faut prier. Pour lui, c'était vraiment l'importance de rester en paix face à l'impossible. Il nous arrivera d'être confrontés à des épreuves et nous nous demanderons si Jésus, Dieu ou quelqu'un d'autre va intervenir. Cela peut engendrer une certaine angoisse. Nous risquons de céder à la panique et de réagir de façon impulsive. Ou bien nous déciderons de faire confiance à Dieu. Et alors nous goûterons au repos. Le choix nous appartient, panique ou paix. Il existe une nette différence entre ceux qui sont patients et ceux qui ne le sont pas. Je crois pouvoir affirmer que les premiers goûtent à la paix en dépit des circonstances, alors que les derniers ont tendance à expérimenter plus de stress. Faire preuve de patience, s'attendre à Dieu avant d'agir, est une mise à l'épreuve majeure et nous permet d'apprendre à goûter à la paix dans les moments difficiles. Je vous lis ça, mais je vous cache pas que moi c'est... je l'apprends encore. Mais ça me parle beaucoup, en tout cas. Et je souhaite réellement avancer là-dedans. Bien. On arrive petit à petit sur la fin de mon message. En parlant de véritable noblesse, le véritable but, à la fin de sa vie, comme dit, ce n'est pas à des hommes ou à la société ou à une entreprise qu'on va rendre des comptes. À la fin de sa vie, c'est devant Dieu qu'on va rendre des comptes. Donc, lorsqu'en tant qu'homme, on est appelé à se demander quel est le bon combat, quelles sont les choses qui valent la peine d'être maintenues, en fait, eh bien, c'est important de rester sur ce que Dieu veut, en fait. Dans 2 Timothée 2, verset 15, il y a Paul qui dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. » Et vous connaissez toutes les souffrances par lesquelles Paul est passé dans sa vie. Il a été emprisonné, torturé, quoi encore. J'ai peut-être, ouais, parjuré. Vraiment, la liste est longue en fait. Mais Paul disait, j'ai combattu le bon combat et j'ai couru la bonne course. Et ça, vraiment, je pense que c'est important de garder le véritable but en tête. Quand on est face aux difficultés et qu'on se demande si ça vaut le coup de continuer. Enfin, moi en tout cas, ça m'aide. Ouais, justement, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est un peu ma conclusion. Ma conclusion, alors vous allez me dire que tout ce que j'ai dit peut aussi s'appliquer à des femmes, mais c'est vrai que c'est vraiment les hommes que je voulais encourager. Quand, vraiment, juste merci à tous ceux qui ont tenu et qui tiennent encore. Quand il n'y a pas eu de reconnaissance, quand il y a eu les manques de finances, quand il y a eu la maladie, quand il y a eu le mépris, quand il y a eu beaucoup de choses en fait... Mais juste, je veux honorer tous ceux qui ont vraiment tenu. Je dis ça pour les hommes. En réalité, je sais très bien aussi qu'il y a bien des femmes qui vivent ça ici. Et je veux aussi honorer chaque femme qui a choisi de tenir, de combattre le bon combat et de garder ses valeurs, malgré tout. Mais n'étant pas une femme, je ne sais pas si je trouverai les bons mots pour vraiment encourager la gente féminine. Comme vous le voyez, mon cœur, c'est vraiment l'unité dans l'Église et de valoriser chacun. C'est tellement précieux quand... C'est tellement précieux, vraiment, à chaque fois que vous faites le bon choix, en fait. Les conséquences ou les récompenses liées à vos actions vont bien, bien plus loin que juste le moment présent. Ça va aller jusque dans l'éternité, déjà dans la vie présente, mais l'éternité, et l'éternité, c'est quand même une infinité de temps, par définition, donc c'est quand même fou de se dire ça. Ouais. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. J'espère que ce message vous encouragera ou vous aura exhorté. Et peut-être un dernier point encore, mais même pour les hommes qui se sentent, ou les femmes, qui se sentiraient nuls par rapport à des compromis, des échecs, ou même des choix graves qu'ils auraient faits et qui auraient provoqué beaucoup de dégâts. Même là, je veux encourager en disant, mais tant que vous avez un souffle de vie, la vie n'est pas finie. Et on peut encore utiliser le temps qui nous reste pour réparer, pour reconstruire et faire ce qui est juste et bon devant Dieu, en fait, sachant que ce ne sera pas perdu.